Vous écoutez RTL.
RTL Midi,
Philippe Robuchon.
Bonjour Marie-France Noël.
Bonjour à vous.
Vous portez un nom prédestiné, on va parler avec vous de l'origine des traditions de Noël. Vous êtes spécialiste des traditions populaires, vous avez notamment écrit un ouvrage qui s'appelle Noël, Histoire et Tradition aux éditions Ouest France. Alors si vous voulez bien, on va prendre un par un tous les symboles de Noël. D'abord, évidemment, pas de Noël sans sapin. Une bonne fois pour toutes, est-ce que Noël...
Il n'est pas chrétien.
Il n'est pas chrétien, voilà, j'allais vous poser la question.
Non.
Rien à voir.
Il n'a rien à voir, donc on peut arrêter les polémiques un petit peu stériles pour savoir si on doit mettre ou non un sapin dans un espace public. Le sapin n'est pas d'origine chrétienne. C'est vraiment un reste de culte païen qui a été récupéré, évidemment, au Moyen-Âge, par cet arbre de la connaissance qui représentait l'arbre du paradis perdu, qu'on a ensuite habillé avec des pommes, parce que les pommes, c'était évidemment le rappel de la faute de la pomme d'Adam et la pomme de Ève, celle de la tentation qui leur avait fait perdre le paradis. Et ces pommes ont été progressivement transformées en petites boules,
les fameuses boules de Noël. On va y revenir. Je voudrais
bien
juste
sûr
qu'on reste sur le sapin, arbre qui reste vert.
Oui.
Et ça, c'est important dans la tradition.
Il est évident que, comme là, on est encore toujours dans cette histoire de solstice et de lumière qui n'existe pas, il faut que la vie renaisse sous une forme ou sous une autre. Et si vous prenez un arbre avec des feuilles caduques, ça n'a aucun intérêt de montrer un chêne aussi beau, aussi majestueux soit-il.
S'il n'a plus de feuilles.
Ouais. Tandis qu'un sapin, c'est quand même un arbre qui reste vert et ses aiguilles sont tout le temps là et ils sont bons en plus.
Les boules de Noël, vous l'avez évoqué.
C'est une réminiscence des pommes. Il y avait même dans certaines régions, on décorait les sapins dits de Noël, parce que le premier vrai sapin de Noël affirmé en place publique, c'est à Strasbourg en 1661, si je me souviens bien. Alors, ils étaient décorés quelquefois avec des hosties, pour rappeler encore toujours la religion, mais en fait, non, c'était vraiment l'arbre de la tradition païenne.
Donc les pommes sont devenues des boules d'abord en verre,
Oui, absolument.
Et ensuite, des boules en plastique, comme on connaît aujourd'hui.
Absolument, qui sont moins cassables et qui viennent directement d'un très grand pays producteur de beaucoup de plastique et qui pollue beaucoup la planète.
Qui dit sapin dit Père Noël également.
Bien sûr. Alors, le Père Noël est une invention finalement relativement récente. Notre Père Noël est vraiment un personnage que l'on voit apparaître dans un certain nombre de récits plutôt américains à la fin du 19e siècle, dans des poèmes. Et puis, quand il va être popularisé par la publicité d'une grande marque de soda que nous ne citerons pas...
C'est donc vrai, tout le monde le sait maintenant.
On le sait. Enfin, disons qu'ils ont repris des éléments et surtout, ils ont fait cet énorme bonhomme bien rond, bien joufflu, bien gentil, etc., avec ses petites lunettes cerclées et puis sa houppelande, etc., et vêtu de rouge. Donc, effectivement, le Père Noël, à partir de ce moment-là et à partir de la publicité du début des années 20-30, etc., est devenu le personnage de référence.
Et auparavant, il était vert.
Il pouvait être vert ou il pouvait être blanc. Donc maintenant, effectivement, personne ne conçoit un Père Noël qui ne soit pas rouge.
Et c'est depuis cette grande marque de soda qu'il est devenu rouge. Alors, Madame Noël, le repas a-t-il toujours été l'occasion d'un réveillon ? Ou est-ce qu'à une époque, c'était deux choses totalement dissociées ?
Alors, le réveillon en tant que tel n'existe pas non plus. Parce que quand on était en période, juste avant Noël, on était en période de carême. C'est-à-dire qu'il
comme
était...
Pâques. Comme Pâques.
Exactement comme pour Pâques. Il y avait ce temps de carême où il n'était pas admis de manger de la viande. Donc, le sens exact de réveillon, depuis le XVIIe siècle, c'est un repas en maigre qui va devenir en grade dès qu'on a passé minuit. Mais à cause de cette tradition du carême, dans certaines régions de France, si vous faites le réveillon en Provence, on va vous servir de la morue, parce qu'on est encore dans la tradition du carême. Et ce repas se fera avant la messe de minuit. Et puis si vous faites un repas après la messe de minuit, comme en Lorraine ou en Alsace, vous mangerez du cochon, vous mangerez...
C'est très intéressant, ça.
Voilà, parce que là, et puis comme c'est en décembre que l'on
tue les
cochons dans les fermes, dans la société rurale traditionnelle, il y avait abondance de saucisses et de boudins à consommer.
Alors, progressivement, je crois qu'il y a quelque chose qui s'est imposé aussi dans les plats de réveillon, ce sont les volailles.
Parce que c'était du luxe. La société traditionnelle ne consommait pas de grosses viandes et ne consommait pas de volailles. Elles étaient réservées pour la vente la plupart du temps. Le chapon, la poularde, ce sont des mets de luxe. La dinde est arrivée au XVIIe siècle en France. C'était un animal de ménagerie tellement il était beau et précieux. Et Louis XIV avait un capitaine des dindons. Et on ne mangeait pas les dindons.
Et ça, c'est quelle origine la dinde ça...
Amérique du Nord. C'est la fameuse turkey qui glougloute.
Autre plat indissociable de Noël, la bûche de Noël.
Là encore, la bûche pâtissière, il ne fallait pas y compter, vous alliez vous casser les dents dessus, parce que la bûche de Noël, c'est une tradition de couper une grosse bûche dans la forêt, de la faire brûler.
Mais une vraie.
Une vraie bûche qu'on met dans l'âtre et qu'on bénit et que l'on fait brûler pendant les 12 jours qui vont de Noël au roi. Et les tisons de cette bûche, une fois qu'ils seront refroidis, vont être gardés par les familles parce qu'ils ont une valeur prophylactique. Ils vont protéger la maison, ils vont protéger les animaux, ils vont protéger les personnes. Voilà. Et puis effectivement, quand vous arrivez dans une société de plus en plus urbaine, où il n'y a plus de grands âtres pour faire brûler des énormes bûches, eh bien, les pâtissiers parisiens inventent la bûche qui est cette fois-ci beaucoup plus comestible.
En effet, on se casse moins les dents. En tout cas, c'était très intéressant d'écouter toutes ces traditions. Merci beaucoup Marie-France Noël. Je rappelle que vous êtes spécialiste des traditions populaires et qu'on peut retrouver un livre que vous avez écrit il y a une dizaine d'années qui est passionnant, qui s'appelle Noël, Histoire et Tradition. C'est aux éditions Ouest France.
Je vous remercie et je souhaite une très 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 joyeuse fête de Noël à tous nos auditeurs.